Alléluia. Soyez bénis. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole est la vérité. Alors Seigneur, alors que nous allons partager autour de ta parole, Seigneur, je prie vraiment qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Seigneur, nous savons que ta parole est vie, nous savons qu'elle est puissance, nous savons qu'elle est active, et nous savons, oui, qu'elle peut, détruire des murailles, elle peut détruire des forteresses. Alors Seigneur, nous croyons que par la foi, elle va encore aujourd'hui agir. Elle va encore aujourd'hui agir. Parce que ce n'est pas une parole d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est une parole éternelle. Alors oui, les miracles, ils sont de toute éternité. Et on peut compter sur le miracle, Seigneur, aujourd'hui. Alors que ta parole soit vraiment proclamée, élevée, et qu'elle vienne parler au cœur. Amen. C'est une joie d'avoir participé à cette première partie de culte, avec cette première évocation botanique de la part de notre frère Pierre-Antoine. Puis je vais continuer un peu dans la même dynamique, figurez-vous. Ce n'était pas vraiment concerté. J'ai à cœur, vous savez, depuis quelques mois maintenant, cette thématique de la joie, et le Seigneur ne me demande pas de changer de braquet, de changer de direction. Donc on va continuer dans cette thématique en l'élargissant peut-être un petit peu plus. Parce qu'après tout, la joie, finalement, elle devrait être la base de tous nos messages. Quand on parle de l'évangile, on parle de la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quand on reçoit une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie. Donc ça doit être vraiment ce fil conducteur, cette colonne vertébrale. Et je prie que la colonne vertébrale de ta fille, Jessica, elle se redresse. Parce que par la foi, on prie que cette scoliose va disparaître. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante et elle est puissante. Et la joie, je parlais de botanique tout à l'heure, tu parlais de cactus. Moi, je vais parler de fruits ce matin. Puisque la joie, est-ce que ce n'est pas comme un fruit qui pousse? Si on se réfère à une parole bien connue dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc la joie, elle s'inscrit pleinement dans ce processus, dans une caractéristique qui est une caractéristique d'un fruit, qui est le fruit de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul. Alors depuis le début de cette série sur la joie, on a exploré plein de visages différents de la joie. On va juste se les rappeler rapidement. Le premier message, c'était Jean 16. Jésus nous a promis une joie que nul ne peut ôter. Souvenez-vous, hein, qui était ancrée dans sa résurrection. Il y avait ce message aussi autour de Romains 8. Et Paul nous a révélé la joie de l'adoption, la joie que nous avons. Cette certitude d'être des enfants de Dieu, nous avons été adoptés, nous sommes fils et filles du roi, et nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Et ça, si ça ne nous remplit pas de joie, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Et puis on avait été aussi dans Romains 15, où on a découvert que ce Dieu de l'espérance nous remplit de joie et d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et puis le dernier message, j'avais été dans le Premier Testament, Néhémie, qui nous parle d'une joie qui est comme une force. La joie de l'Éternel sera votre force. Et là, on parlait d'une joie qui était La force, dans l'hébreu, c'était Mao, c'était cette forteresse qui est imprenable. Et cette joie, elle est protégée par cette forteresse imprenable, ce Maos de Dieu. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de m'arrêter sur cette question simple à laquelle Paul nous invite à réfléchir finalement dans Galates 5. C'est qu'est-ce qui fait pousser cette joie finalement? Et plus largement, parce qu'on va élargir un petit peu la perspective et on ne va pas parler que de joie, on va parler du fruit de l'esprit en général. Parce que l'apôtre Paul, il dit quelque chose d'intéressant, il parle d'un fruit. Et je crois que Dieu, dans sa parole, il aime nous parler de choses naturelles qui sont du domaine du terrestre pour nous révéler des choses spirituelles. Et c'est intéressant dans ce sens-là, que dans le naturel, ben, un fruit, il pousse. Donc spirituellement, il y a quelque chose qui est en miroir et on expérimente quelque chose d'assez similaire. Parce que si on est quand même un petit peu honnête avec nous-mêmes, et moi je vais être honnête avec moi, et je vais être honnête devant vous et honnête devant Dieu, on a prêché sur la joie, j'ai prêché sur la joie, on a chanté des cantiques sur la joie, on a prié, on a entendu des messages, et puis finalement, est-ce que à la suite de ça, on n'est pas rentré chez nous, parfois un peu vide, avec... parfois une tristesse qui restait, qui était là, avec des défis, avec des craintes, peut-être des angoisses. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que ces choses, elles perdurent? On va pas se voiler la face. Chez moi, elles ont pu perdurer à des moments. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Est-ce qu'on manque de volonté? Est-ce qu'on prie pas assez? Est-ce qu'on est des mauvais chrétiens? C'est cette pensée qui peut venir. Mais Galates 5, il vient répondre à ça, en fait. Il vient répondre à ça. C'est que la joie, c'est pas une œuvre. La joie, c'est un fruit. La question, c'est pas est-ce que je fais mal quelque chose? Parce que Paul, il parle bien du fruit de l'esprit. Il ne parle pas de la performance ou de l'effort du fruit. Moi, je ne suis pas agriculteur et puis je n'ai pas d'arbre fruitier dans mon jardin, mais j'imagine qu'un agriculteur, un maraîcher, il ne demande pas à sa pomme de pousser ou il ne tire pas dessus pour qu'elle pousse plus vite. Ça n'existe pas, ça. Ce n'est pas une œuvre. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par nos propres forces. Un fruit, ça ne se fabrique pas. Un fruit, ça pousse. Et le fruit, il pousse quand l'arbre, il est en bonne santé. Quand l'arbre, il est planté dans un terrain qui est fertile, quand il a des bonnes racines, quand il est arrosé, quand la sève circule. Et c'est exactement ce que dit Jésus. Dans Jean 15, si tu veux bien afficher le verset, Corinne, merci beaucoup. Dans Jean 15, au verset 4 et 5, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Il est de même de vous si vous ne demeurez en moi. » Voilà le problème, c'est pas qu'on fait pas assez d'efforts pour être dans la joie. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas connecté à la source, qu'on n'est pas assez branché à cette bonne source, que nous qui sommes les sarments, ne sommes pas suffisamment accrochés au cep. La joie, ce n'est pas quelque chose que je fabrique. La joie, en fait, elle arrive quand je demeure en Christ et quand je marche avec l'Esprit. Quand je marche avec l'Esprit. La joie, c'est quelque chose qui pousse en toi quand tu demeures en Christ et quand tu marches avec l'Esprit. C'est assez libérateur, finalement, quand on entend ça. C'est libérateur parce que ça veut dire que si la joie, elle est absente, la question que tu dois te poser, c'est pas c'est quoi que j'ai raté? C'est quoi que j'ai pas bien fait? C'est pas ça la question que tu dois te poser. C'est où en est ma relation avec l'Esprit ? Où en est ma relation avec l'Esprit ? C'est ça la vraie, seule vraie question. Et ça rejoint un peu ce que Magda nous partageait la semaine dernière aussi, ce que Jérémy avait aussi introduit. Le Saint-Esprit est une personne et on peut lui parler. C'est le consolateur, c'est ce merveilleux conseiller. Si on n'a pas une communion, une communication avec lui, continuelle, parfaite, dans les bons comme dans les mauvais moments, ouais, ça ne peut pas marcher. Mais si on est dans une relation qui n'est jamais rompue, eh bien là, il y a cette joie qui vient, et cette joie qui est ancrée, qui est profonde. Et ce n'est pas forcément... J'avais bien aimé cette image que Magda nous avait donnée, c'est quand elle parlait de ce passage dans Un roi de Élie qui cherchait la face de Dieu alors qu'il était poursuivi par ses ennemis, et c'était... Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent violent. Il était dans ce murmure doux et léger. Parfois, on espère ou on attend des choses un peu surnaturelles, extraordinaires, mais non. Les moments où je rencontre Dieu et où je sens qu'il vient réveiller quelque chose en moi, c'est dans un murmure doux et léger. Quand je suis dans une communication avec lui qui est simple, on enlève tous les artifices. Et ce qui est intéressant dans ce que Paul dit dans ce passage, et qui m'a interrogé, qui m'a interpellé, c'est qu'il ne parle pas de fruit au pluriel, il parle d'un fruit au singulier, et ensuite il vient détailler neuf facettes différentes. Et souvent, j'entends dans des messages ou dans différentes lectures, on parle des fruits de l'esprit, mais en fait, non, la parole, elle dit le fruit de l'esprit. Elle dit le fruit. Donc, ce n'est pas neuf fruits différents qui sont sur neuf branches différentes. C'est un seul fruit et c'est neuf facettes. C'est un peu comme un diamant. Vous voyez, un diamant, quand il est taillé, justement, ça s'appelle des facettes et ça brille. Et ça brille de plusieurs éclats. C'est la même logique, la même image. Ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire que la joie, en fait, elle n'est pas séparable. On ne peut pas la séparer. La joie, elle n'est pas séparable de l'amour. La joie, elle n'est pas séparable de la foi. La joie, elle n'est pas séparable de la paix. Elle n'est pas séparable de la bonté, de la bienveillance, de la patience. Tout ça est profondément accroché. C'est un seul et même fruit. Ça veut dire que si on grandit dans l'amour, eh ben on va aussi grandir dans la joie. Si on grandit dans la foi, si on amène notre foi à maturité, comme ce fruit, on va aussi grandir dans la joie. Ce n'est pas un module à part. Dieu n'a pas voulu nous donner quelque chose d'incomplet, mais quelque chose de très complet. C'est un package complet, c'est full option, c'est la voiture avec toutes les options. La joie, la paix, la foi, l'amour, la bienveillance, tout. Dieu ne veut pas qu'on vive et qu'on marche selon l'esprit de façon incomplète. C'est un Dieu complet, c'est un Dieu parfait. Donc il veut qu'on soit vraiment transformé par toutes les dimensions de ce fruit merveilleux qui renferme toutes ses caractéristiques. Toutes. Et cette joie, selon l'Esprit, en fait, Dieu nous l'avait promis depuis longtemps. Quand on regarde le Premier Testament, et quand on regarde ce que Paul décrit en Galates 5, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est l'accomplissement d'une promesse qui était très ancienne. Ézéchiel, le prophète qui parle à un peuple qui est en exil, un peuple qui est brisé, un peuple qui est quasi anéanti. Et qu'est-ce qu'il va dire en Ézéchiel 36, au verset 26 et 27 ? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ézéchiel, il est en train de prophétiser la Pentecôte 600 ans avant, là. Hein. Il prophétise la Pentecôte. Et regardez la construction de cette phrase. C'est qui le sujet de tous les verbes ? Qui est-ce qui donne ? Qui est-ce qui met ? Qui est-ce qui retire ? Qui est-ce qui donne ? Qui est-ce qui met ? C'est Dieu. Le sujet de tous les verbes, c'est Dieu. C'est lui. Et le peuple, il n'a qu'une chose à faire. Et nous, on n'a qu'une chose à faire. C'est recevoir. Nous, on doit recevoir. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a aucun effort à faire. Comme la pomme, elle pousse sans effort sur le pommier, le fruit pousse sans effort sur son arbre. Nous, on n'a aucun effort à faire. Dieu donne, et toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est recevoir. Recevoir cet esprit de vie. Parce que l'esprit qui a été promis par Ézéchiel, par Dieu, à travers Ézéchiel, à travers la voix de son prophète, mais finalement, c'est cet esprit qui est descendu à la Pentecôte. Cet esprit qui a été promis, a été répandu. Et maintenant, il habite en chacun de nous. En chacun de nous, vous êtes tous le temple du Saint-Esprit. On est tous le temple du Saint-Esprit. Et cet esprit porte en lui une graine de vie, une graine de joie. Et ce n'est pas vous qui avez inventé cette joie. Elle vient de loin. Elle vient du cœur du Père. Elle vient de son cœur, elle a traversé les âges, elle a traversé les prophètes, elle a traversé la croix, elle a traversé la résurrection pour venir habiter en nous. Elle vient habiter en nous, cette joie, par cet esprit. Parce qu'un jour on a dit, Jésus, je veux être ton disciple. Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur et je reconnais que tu es mon Seigneur. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que cet esprit de notre Sauveur, cet esprit de notre Seigneur, ben c'est celui qui habite en nous pour qu'on puisse être façonné à sa ressemblance. Et c'est ça que nous dit Galates 5 aussi. Galates 5, 22, il nous parle de caractère. Parce que Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il a mis en nous. C'est un esprit de force et c'est un esprit de sagesse. Un esprit de force et de sagesse, ce n'est pas un esprit de timidité. Il n'était pas timide, Pierre, quand il était en colère contre l'ennemi, pour que ses douleurs se terminent. Il ne faut pas être timide face à l'ennemi. Celui qui vit en nous, il est bien plus important et bien plus puissant que celui qui veut essayer de nous détruire et qui veut essayer de nous faire douter, qui a encore des forteresses, qui veut que des forteresses d'incrédulité perdurent en nous. Non, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il y a une question qu'on peut se poser. C'est de se dire, ok, c'est très bien, ces choses, Philippe, que tu nous dis, c'est peut-être que des mots. Non, ce n'est pas des mots, c'est la parole. Et la parole, elle est vérité, et la parole, elle est vivante. Et la parole, elle agit. Donc, qu'est-ce que la joie est et qu'est-ce que la joie n'est pas ? La joie du monde, tout le monde la connaît. Hein, et Dieu n'est pas contre ces choses. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Et je veux être compris. Quand on a une bonne nouvelle, qu'on nous annonce une bonne nouvelle, qu'on passe une bonne soirée en famille, entre amis, qu'on a une réussite quelconque, oui, il y a de la joie, il y a de la joie qui vient. Et Dieu est pour ça. Et il n'est pas contre, et bien au contraire. Il veut qu'on se réjouisse et qu'on vive des choses dans ce monde qui sont positives. Mais quand cette joie-là, elle dépend de circonstances, et quand ces circonstances font défaut, ben la joie, elle peut s'évanouir aussi. Ça, c'est une réalité. La joie, elle peut s'évanouir quand les circonstances disparaissent. Donc la joie de l'esprit, elle est d'une autre nature. elle est d'une autre nature. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Anaïs, tu parlais de Paul en prison. Quand Paul, il était en prison et qu'il chantait. Quand Paul, il était poursuivi. Quand Paul, il était dans sa vie d'apôtre pourchassé. Il n'a jamais cessé d'être heureux. Il n'a jamais cessé de se réjouir. Il était en prison. Il disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Jacques aussi a pu dire « Tenez-vous pour heureux lorsque vous tombez dans diverses épreuves ». Jésus lui-même, c'est relaté dans Hébreux 12, a souffert la croix en vue de la joie qui lui était réservée. La joie de l'esprit, elle peut coexister avec la douleur. Les deux peuvent coexister avec les larmes, avec les luttes. J'avais bien aimé cette image de... L'œil du cyclone, Hachim était venu prêcher un dimanche et il avait parlé de l'œil du cyclone. Le cyclone, vous savez, cette tempête qui détruit absolument tout sur son passage. Et puis, il y a cet œil du cyclone et dans l'œil du cyclone, quand vous êtes au cœur du cyclone, en fait, il y a une paix, il y a quelque chose, il ne se passe rien en fait. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de... C'est une image qui est profonde. C'est de garder ce calme, cette joie, cette paix malgré le tumulte et malgré... Tout ce qui peut être détruit autour de nous. Donc cette paix-là, cette joie-là, ce n'est pas une émotion, c'est une conviction finalement. C'est une conviction. Pierre, il décrit cette joie avec des mots extraordinaires. Si tu veux bien mettre 1 Pierre, s'il te plaît, 1 Pierre 1, au verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Une joie indescriptible et glorieuse. Une joie qui a été touchée par la gloire de Dieu, inexprimable. En fait, si on traduit simplement, c'est une joie que les mots n'arrivent même pas à décrire. Une joie indescriptible. C'est la gloire de Dieu qui vient toucher. C'est la gloire de Dieu qui vient toucher. Quand c'est indescriptible, quand c'est innommable et quand c'est glorieux, c'est que Dieu est dans l'affaire. Et cette joie, elle naît d'une conviction. C'est que Dieu est bon. Dieu est bon. L'histoire, quelle que soit l'histoire que tu vis, quel que soit ce que tu vis, ça a un sens. Pour toi, dans la chair, dans les émotions, ça n'a peut-être pas de sens. Mais toi, tu as une conviction qui est ancrée en toi, dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te le révéler. Il y a une conviction, c'est que ça a un sens, que la résurrection, elle est réelle. Ce n'est pas une histoire, la résurrection, elle est réelle. Jésus est vivant. Il est vivant. Et rien ne peut nous arracher des mains du Père. C'est pas du positivisme ou de l'optimisme ou vous savez ça c'est dans le monde il y a plein de professionnels de coachs qui cherchent à ce qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes, vous savez c'est très à la mode ça. Pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien dans ta vie, il faut que tu sois la meilleure version de toi-même. Mais j'en veux surtout pas de la meilleure version de moi-même. Moi, je veux la meilleure version qui soit. La meilleure version, c'est celle de Dieu qui vit en moi. Moi, je n'ai pas confiance dans mes émotions. Je n'ai pas confiance dans ma chair, je vous le dis. Mais j'ai confiance dans cet esprit qui vit en moi. J'ai confiance en lui. C'est ça, la meilleure version. C'est Dieu qui vit en moi. Et c'est de la foi. C'est la foi qui produit... ces choses qui produisent cette joie, qui produisent cette vie que je veux en abondance. Mais elle a besoin de grandir. On parlait du fruit de l'esprit. Le fruit, la pomme, elle ne se réveille pas un matin et elle est prête à manger le soir même. Hein. Il y a un processus. Il y a un processus. Le fruit, il grandit. Il a besoin de temps. y a une floraison, il y a une croissance, il y a une maturation. Et ça aussi, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas qu'on soit condamné si cette maturation, si cette pousse, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Ça ne peut pas jaillir comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on cherche à aller vers cette maturité spirituelle en laissant au fruit le temps de mûrir. Laissons le fruit mûrir. Ne nous décourageons pas malgré les obstacles qui peuvent se dresser et que l'ennemi ne manque pas de dresser devant nous. Alors comment on cultive cette joie, du coup ? Comment est-ce qu'on la cultive pour que de ce germe, on aboutisse à un fruit mûr, à un fruit mature, à quelque chose qui vienne vraiment nous bénir ? Ben, la bonne question, c'est quoi le sol sur lequel je fais pousser ce fruit ? C'est quoi les conditions qui permettent à ce fruit de pousser ? Paul nous donne dans Galates 5 au verset 16, nous donne une bonne méthode. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Le mot pour marcher ici, marcher par l'esprit en grec, c'est péripatéo. Ça veut dire aller et venir, ça veut dire vivre au quotidien. C'est vraiment une marche du quotidien, ce n'est pas un rassemblement communautaire du dimanche matin, c'est une vie du quotidien, marcher par l'esprit. Paul ne dit pas, on marche par l'esprit dans les grands moments de louange, même si les grands moments de louange sont bénissants. Combien on a été bénis, merci là, l'équipe de louange pour ce que vous nous avez donné ce matin. Paul dit, dans votre marche ordinaire, dans vos pas de chaque jour, pour que l'esprit soit vraiment l'atmosphère de ce qu'on vit tous les jours, chaque jour. Parce que dans cette atmosphère-là, bah, la joie, elle va pousser naturellement, comme l'herbe va pousser quand elle est dans un champ favorable avec de l'eau. C'est ça l'image. Parce que Paul, il met en garde quand même. Galates 5, 22, ça vient clôturer le chapitre. Mais au verset 19, Paul il nous parle des œuvres de la chair. Et là, pour le coup, c'est pas un fruit, c'est pas de l'esprit, c'est une œuvre, c'est un ouvrage, quelque chose qui vient de la chair, qui n'est pas... Alors la chair, c'est pas mes muscles, etc. On est d'accord, c'est notre nature déchue qui est coupée de Dieu. Et faut qu'on soit vigilant à ça, parce que ça fonctionne en autonomie. Hein. Et c'est l'esprit qui vient nous corriger. Et les œuvres, c'est la jalousie, la discorde, l'amertume, les animosités, les divisions. Ça produit aucune joie durable. Aucune. Que de la fatigue, que du vide. Rien qui ne soit à la gloire de Dieu. Et plus grave encore, parce que la parole nous le dit, ça nous éloigne de l'héritage qui est le nôtre dans le royaume. Ça nous éloigne de l'héritage qui est le nôtre dans le royaume. Donc quand Dieu dit « marcher selon l'esprit », ça veut dire qu'il croit qu'il y a un fruit qui naît de l'esprit et qui est là, avec un fruit qui reste, une joie, une paix, un amour qui reste. Et donc laissez la parole demeurer en nous. Parce que dans Jean 15, Jésus nous le dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. La parole doit demeurer en nous. La parole de Christ, elle entretient la joie. C'est ça aussi, cultiver cette joie, c'est être ancré dans la parole. Parce que cette parole, elle est finalement comme la sève, cette sève qui monte du cep, qui va jusque dans les sarments, et là, la vie, elle peut couler. C'est une relation vivante. Ce n'est pas des formules magiques, la parole. Hein. C'est une relation vivante. Moi, quand je veux parler à Dieu, Il faut que je plonge mes yeux dans la parole. J'y arrive pas autrement. C'est une relation vivante. En fait, la parole, elle me parle. Et ça doit aussi vous arriver, sans doute. Quand vous avez un passage qui vient vous frapper, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Et il y a une joie profonde qui vient. La parole, elle réveille quelque chose dans les profondeurs de ce qu'on est. Et c'est une joie tranquille, c'est une certitude, c'est une force qui vient là. Et que nul ne peut ôter cette joie. Et puis, il y a un dernier point sur cultiver la joie, c'est, qu'on ne doit pas négliger, c'est la communion fraternelle. Et la parole, elle est claire aussi là-dessus. Jean dit quelque chose de fort dans 1 Jean 1, 3 au verset 4. 1 Jean 1, verset 3 et 4, pardon. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Là, Jean, il met un lien direct entre la communion fraternelle et la joie parfaite. Il y a un lien direct. Nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Donc la joie chrétienne, elle a besoin de la communauté. On ne peut pas être un arbre planté tout seul dans un désert, ça ne va rien donner. On va être à la merci de n'importe quel prédateur, mais on va surtout être sec. Alors que lorsqu'on est avec des frères et sœurs, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on échange, lorsqu'on partage, là, il y a du fruit qui peut venir. L'isolement, c'est une arme de l'ennemi contre les chrétiens. On ne peut pas être isolé. Il ne faut pas qu'on se prive de ce microclimat qui est la communauté. Pour nous-mêmes produire, créer du fruit. Parce que cette joie de l'esprit, elle n'est pas juste pour nous. Cette joie de l'esprit, en fait, elle est un témoignage. Elle est un témoignage. Dans Acte 13, vous connaissez tous ce passage, il y a Paul et Barnabas qui viennent d'être expulsés d'Antioche. Il y a des tas de trucs pas sympas qui leur arrivent. Tout le monde leur tombe dessus, ils sont expulsés, et pourtant, et c'est arrivé, et je lisais ce passage, et c'était presque, je ne l'avais pas vu, quoi. C'était presque anecdotique, à la fin du chapitre, où il est dit, les disciples étaient remplis de joie et de Saint-Esprit. Les gars, ils étaient chassés, ils étaient persécutés, ils se sont fait virer d'Antioche, et ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Vous imaginez ce que ça a dû produire parmi ceux qui les regardaient ? Qu'est-ce que c'est que ces gars ? Qu'est-ce que c'est que cette joie qui leur tombe dessus, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est leur tête. Il n'y a pas d'explication naturelle à ça. Et Paul, il dira même aux Thessaloniciens, vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, de sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Un modèle pour tous les croyants, parce qu'il y avait de la joie dans la tribulation. Et c'est devenu un modèle. Cette joie, elle ne dépend plus des circonstances, là. Quand le monde voit quelqu'un qui devrait être abattu et qui rayonne, il voit quoi, à votre avis ? Il voit le royaume. Il voit le royaume. Il voit quelque chose que le naturel ne peut pas expliquer. Et parfois, ça peut même ouvrir une porte pour l'évangile. Notre joie, ça peut être un témoignage. Alors qu'on est en train de vivre des épreuves, Ça peut être un témoignage puissant, très puissant. Peut-être le plus puissant qu'on puisse donner. Cette joie de l'esprit en nous. Et cette joie, comme je vous le disais, elle n'est pas seule. Quand on parlait du fruit de l'esprit, et je voudrais conclure là-dessus, le fruit de l'esprit, il est multifacette. Tu peux peut-être, Corinne, s'il te plaît, revenir juste sur le premier verset de Galates 5, 22, du coup, pour qu'on visualise bien les différentes caractéristiques, les différentes facettes. Et là, on voit quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a sauté aux yeux. Le fruit de l'esprit, est-ce que ce n'est pas le caractère de Christ ? Est-ce que ce n'est pas le caractère de Christ qui veut être implanté en nous ? Est-ce qu'on n'est pas appelé à diminuer pour que Christ grandisse en nous ? Est-ce qu'on n'a pas été fait ? Est-ce qu'on n'a pas été fait pour ressembler à Christ, nous revêtir de son caractère ? Parce que là, on pourrait voir une liste de qualités morales, hein, finalement, et peut-être religieuses. On s'efforcerait d'aimer, on s'efforcerait d'être patient, on s'efforcerait d'être doux, d'être maître de soi. Non, encore une fois, c'est profondément spirituel. Et c'est une personne. Le fruit de l'esprit, c'est une personne, c'est Christ. C'est Jésus. Quand vous regardez attentivement ce fruit, et vous regardez Jésus, ce qu'il a fait pendant ses 3 ans de ministère sur terre, Jésus est amour. Oui, Jésus est amour. Jean 13, 1 nous dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Quel plus grand amour ! Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est l'amour. Jésus est la joie. Luc 10, 21 nous dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et Jésus tressaillait de joie en faisant cette prière au Père. Jésus est la joie. Jésus est la paix. On l'a chanté tout à l'heure. On l'appellera prince de la paix. Ésaïe 9. Jésus est la patience. Il en fallait de la patience hein, pour scoltiner les 12 apôtres, enfin les 12 disciples au début. Combien de fois les disciples ont été lents à comprendre ? Mais Jésus avec patience, pédagogie, il les a emmenés jusqu'au bout. Sans les abandonner, il a continué à les former et à faire d'eux les apôtres qui sont devenus. Jésus est la bonté et la bienveillance. Bien sûr qu'il est la bonté et la bienveillance. Avec qui il était Jésus ? Il touchait les lépreux, il accueillait les rejetés, il pardonnait à la femme adultère, il mangeait avec les pécheurs. Il était la bonté et la bienveillance. Il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Puis Jésus est la douceur. Matthieu 11, 29 nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Et la maîtrise de soi, c'est ça qui m'a touché. La maîtrise de soi, c'est la dernière caractéristique. Et c'est les derniers moments que Jésus a vécu. Quand il a été outragé, quand il a été arrêté, insulté, fouetté, insulté, crucifié. Est-ce qu'il n'a pas été maître de soi, maître de lui ? Même quand Pierre il sort l'épée, stop ! La maîtrise de soi. Donc non, le fruit de l'esprit, c'est pas devenir une meilleure version de soi-même. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça le fruit de l'esprit. C'est mourir à notre ancienne nature pour qu'on laisse apparaître la vie de Christ en nous. C'est ça toute notre vocation chrétienne. C'est ça la vocation chrétienne. Le projet de Dieu, c'est pas seulement de te bénir, c'est pas seulement de te relever, c'est pas simplement de t'utiliser. Bien sûr que Dieu veut faire tout ça. Mais il veut avant tout que tu ressembles à Christ. Son projet ultime, c'est la ressemblance. Il veut qu'on ressemble à Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, dans Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le projet ultime de Dieu, c'est qu'on ressemble à Christ, toujours plus. C'est pour ça que le fruit, il est si important, le fruit de l'esprit, qu'on doit vraiment le méditer. Parce que les dons, ils peuvent impressionner. Et Olivia nous le disait 15 jours ou 3 semaines, tes dons n'impressionnent pas du tout Dieu. Pas te leurrer. Mais seul le fruit révèle vraiment et réellement à qui on ressemble. Parce que tu peux prophétiser, mais si tu n'aimes pas, ça sert à rien. Tu peux prêcher, mais si tu n'as pas la paix, à quoi bon? Tu peux avoir du charisme, mais si tu n'as pas la douceur, parce que tu as le fruit. Mais quand le fruit de l'esprit commence à mûrir dans ta vie, quand le fruit de l'esprit commence à mûrir dans ta vie, ben là, les gens, ils commencent à voir Jésus. Et honnêtement, c'est ça que le monde attend. C'est ça que le monde attend. J'en suis persuadé, le monde attend la révélation des fils de l'homme. Et il attend... C'est un ardent désir en plus, hein, nous dit la parole. Hein. Avec un ardent désir, la révélation des fils de l'homme. Il n'attend pas des gens qui connaissent tous les versets de la Bible et qui viennent t'assommer avec chacun d'entre eux. Pas la connaissance que Dieu veut, c'est la ressemblance. Pas seulement des croyants qui parlent de Christ, mais des croyants chez qui Christ devient vraiment visible. Parce qu'en eux, le fruit de l'esprit, il est mûr et qu'il va révéler toutes les facettes. Toutes les facettes. Des facettes merveilleuses de ce caractère. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est l'esprit qui transforme. L'esprit, ce n'est pas un maquillage spirituel, c'est pas une effervescence, c'est une transformation profonde. Transformation intérieure, qui peut être progressive, mais qui est surnaturelle. Dans un murmure doux et léger, parfois on attend et on espère des choses spectaculaires, mais Dieu, il travaille pas comme ça. S'il n'y a pas de transformation, le spectaculaire d'un temps, qu'aura-t-il servi? Alors que si l'esprit prend de la place, Jésus va devenir visible dans ta manière d'aimer, dans ta manière de parler, dans ta manière de réagir, dans ta manière d'être, de traverser les épreuves. Et c'est là qu'on verra la vraie maturité chrétienne. C'est là qu'on va la voir. Quand ce fruit soit arrivé à pleine maturité, qui sera prêt de croquer. Porter le caractère de Christ. C'est vraiment ça le fond de ce message ce matin et ce avec quoi je voulais vous laisser. C'est un message simple, je crois, mais qui est profond. Je vous ai rien appris ce matin. Je vous ai rien appris. Tout ce que j'ai dit, c'est des choses que vous connaissez. Mais Dieu ne nous demande pas que de connaître, il nous demande de vivre. Et il ne nous demande pas de produire quelque chose. Il nous demande de laisser pousser cette chose en nous. Ne produisez rien. Ne gaspillez pas vos forces. Ne vous efforcez pas de faire pousser un fruit qui finalement est déjà là en nous. Il est déjà là en nous. Et donc la question ce matin, et je vais vous laisser avec cette dernière question, c'est pas de se dire comment je peux être plus en joie, comment je peux être plus en paix, comment je peux donner plus d'amour. C'est juste de se dire, est-ce que je demeure dans le cep ? Est-ce que je demeure dans le cep ? Est-ce que je marche selon l'esprit ? Est-ce que je laisse la parole habiter en moi ? Est-ce que je reste connecté à la communauté ? Ézéchiel l'avait annoncé, Jésus l'a rendu possible par sa mort, par sa résurrection. Il a tout accompli. L'Esprit a été répandu à la Pentecôte. Et nous sommes au bénéfice aujourd'hui, en ce dimanche, de ce qui a été réalisé, de ce qui a été fait, de ce qui a été accompli. Et cet Esprit en nous, il porte ce germe d'une joie qui est ineffable, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est éternelle. Elle porte en elle l'éternité. Alors, ce fruit qui appartient à l'Esprit, laissons-le simplement pousser, grandir. Faisons confiance au jardinier. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance parce qu'on sait qu'il est fidèle, qu'il est juste et qu'il est bon et qu'il va l'amener à sa pleine maturité. Merci Jésus, merci Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour les vérités de ta parole. Alors fais grandir en nous, Seigneur, fais grandir en nous ce fruit. Efface, Seigneur, nos tristesses, efface, Seigneur, tout ce qui nous encombre aujourd'hui, tout ce qui nous tire vers le bas. Mais Seigneur, suscite cette conscience profonde que nous avons l'Esprit en nous et que cet Esprit est en train de produire une œuvre merveilleuse et éternelle qui va produire du fruit pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Et comme il a été prié et intercédé ce matin, Seigneur, ce fruit n'est pas simplement pour nous. Il est pour tous ceux qui sont dehors, pour tous ceux qui, dans nos familles, ne te connaissent pas. Et Seigneur, quel meilleur témoignage que de te ressembler, que de porter ce caractère et ces caractéristiques du fruit de l'Esprit pour amener ceux qui ne te connaissent pas à te connaître pour l'éternité. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus.